Bienvenue dans Culture et Éducation, une émission de Radio Courtoisie avec Sophie Ruberti. Je reçois aujourd'hui Charles Berkowitz pour son roman La Quintette de Montauban qui vient de sortir aux éditions Les Impliqués. Bonjour Charles Berkowitz.
Bonjour Sophie Ruberti.
Amoureux des lettres, vous avez fait des études de philosophie. La vie a voulu que vous ayez une carrière dans de grandes entreprises, mais vous vous dites historien frustré. Qu'est-ce que c'est qu'un historien frustré ?
Bah, c'était un amoureux d'histoire, de l'histoire étant petit, et puis auquel sa maman racontait beaucoup de choses, et qui, lorsqu'il a voulu faire des études d'histoire, lui a dit « on vit pas avec ça, il va falloir que tu fasses des études sérieuses, mon fils ».
Et donc, vous avez fait des études sérieuses, mais votre passion vous a rattrapé. Et là, vous vous intéressez à 1942. Alors, on ne s'intéresse pas à 1942 de manière totalement innocente. Et vous avez choisi pour titre de votre roman Le Quintet de Montauban. 1942, la vie de la Joconde et d'une fillette entre goupillon, képi et croix de Lorraine. Alors, vous nous emmenez donc au cœur de la Deuxième Guerre mondiale.
C'est tout à fait ça. C'est le point nodal du roman se tourne autour de 1942. On va voir se croiser 5 destins, mais plus que se croiser, se rencontrer à de multiples occurrences. 5 destins avec des personnages très différents.
Alors ces personnages, le sous-titre nous donne déjà un petit peu une idée de ce qui va se passer. Alors pourquoi un quintet et pourquoi Montauban? Alors je sais, on ne devrait jamais quitter Montauban. La référence nous vient souvent automatiquement, mais pourquoi un quintet?
C'est sûr que Montauban mérite plus, on en discutera au cours de l'émission, que ce simple slogan. Alors pourquoi le quintet? D'abord parce que quand on parle de quintet, spontanément on parle de jazz. Et le jazz c'est quoi? C'est fondamentalement une capacité à improviser. Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est voir comment des hommes confrontés à des choses totalement inattendues et impossibles à anticiper, en 1940, comment ils vont réagir entre 40 et 42. Et on va voir des destins qui vont évoluer de manière très surprenante. Et pourquoi le quintet? Tout simplement parce que j'ai 5 personnages. Et donc, on va avoir cette capacité des 5 personnages devant l'histoire, la grande histoire et la petite histoire, et la façon d'interréagir.
Alors, quand on écrit un roman, c'est effectivement souvent la petite histoire qui rencontre la grande. Mais c'est un roman, mais pas totalement, parce qu'en fait, vous vous appuyez sur une histoire vraie, une histoire vécue.
Absolument. Je m'appuie sur beaucoup d'histoires vécues. Alors d'abord, l'histoire d'une petite fille qui se trouve être celle de ma maman au départ, qui a 8 ans en 1942. Et c'est comprendre comment elle va interréagir et comment elle va être sauvée par des grands acteurs de l'histoire. Et pourquoi on prend une forme romancée? Parce que à côté de tous ces faits qui existent, qui s'inscrivent dans le travail des historiens, qu'on peut préciser, qu'on peut documenter, qu'on peut référencer, ben il y a les liens entre les personnages qu'on connaisse pas forcément, qu'on a besoin de relier. Il y a aussi cette capacité que l'historien n'a pas le droit de prendre à se mettre dans la tête des personnages. L'historien, ça lui est interdit. Il est obligé de rester au fait. Et puis ensuite, le romancier peut tout à fait se permettre d'interpréter, d'inventer des choses, ce qui est nécessairement le cas, dans un cadre très rigoureux. Effectivement, ça a été le sens de ma démarche. Et je précise dans une postface que je n'invite pas à lire avant la lecture du roman, mais après, c'est son objet, je précise, qui relève du fait, de ce qui relève de la liberté de l'auteur.
Alors ça, j'ai beaucoup apprécié, parce que parfois, parce qu'en fait, finalement, vous remplissez des trous, vous remplissez du vide, votre imagination va meubler, va combler, va réinventer ce dont vous ne disposez pas par vos recherches. Et j'ai apprécié d'avoir cette postface, justement, où vous distinguez bien ce qui est du domaine de votre fertile imagination, adapté à l'histoire, et ce qui est de la recherche pure que vous avez pu faire dans les archives. Parce que vous avez, ironiquement, prêté des faits, des récompenses à des personnages qui n'ont pas reçu ces récompenses, mais dit « tiens, je ne savais pas ». Et en fait, non, pas du tout, c'était un peu en hommage à ces personnages que vous les aviez gratifiés de bonnes choses que vous avez inventées. Donc vous avez fait des recherches, vous êtes partie de cette maman, Et pourquoi vous êtes-vous intéressé à votre âge, à l'enfance de votre mère? Parce que finalement, vous auriez pu le faire beaucoup plus tôt. Est-ce le temps qui vous avait manqué?
Je ne suis pas sûr que ce soit le temps. Et je crois que très souvent dans les familles, on commence à s'intéresser à l'histoire des racines à un certain moment de sa vie. Et souvent un peu tard. Un peu tard pour recueillir les témoignages complètement fiables de premier rang. Parce que la mémoire faiblit avec les années, on reconstitue de manière différente. C'est différent selon les personnes. Et puis, la capacité à s'ouvrir, il y a beaucoup de parents, de grands-parents qui résistent à raconter des moments parfois difficiles de leur existence. Et je crois que ce dont je témoigne là est quelque chose qu'on peut retrouver dans bien d'autres familles. Et puis, il y a un moment, effectivement, on a envie de transmettre. L'histoire d'une personne s'inscrit dans un contexte, s'inscrit dans une lignée, s'inscrit dans des interactions. Et pour transmettre, il faut être capable de reconstituer le vécu, de trouver les liens entre les personnes, les liens entre les personnes et les événements, de mettre en perspective. Et effectivement, il y a un moment, c'est sorti comme un besoin, presque dire viscéral. Et puis, avec toujours l'idée de la chose écrite qui m'a accompagné toute ma vie, parce que j'adore ça, j'ai toujours aimé énormément lire. J'ai souvent écrit, j'ai jamais cherché à publier. Et donc là, c'est quelque chose qui aujourd'hui... Alors j'ai quelques exemples de camarades qui se sont lancés aussi dans l'écriture tardivement et qui m'ont donné envie de me libérer et de me dire finalement...
dont j'ai reçu certains, d'ailleurs.
Et je n'ai peut-être pas besoin de me réfréner. Vas-y, lance-toi, prends le temps de le faire. Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? C'est peut-être ce temps-là et c'est peut-être ce témoignage-là.
Est-ce que finalement, c'est la question de la transmission qui vous a saisi à un moment donné et que le désir de vos enfants, peut-être, de comprendre ce qui s'était passé dans la vie de leur grand-mère, vous a donné envie de vous saisir de ce sujet qui était aussi le vôtre?
Alors, il y a ce désir de transmission, et puis il y a ce désir peut-être, alors là, on ne va pas entrer dans la psychanalyse, mais peut-être de laisser quelque chose. C'est-à-dire que quand on a une vie professionnelle très dense, avec des responsabilités dans le monde de l'entreprise, dans le monde des affaires, finalement, on est passionné par ce qu'on fait, mais avec un peu de recul, on se dit, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans,
que restera-t-il?
Et on a quand même envie de laisser, enfin, j'ai envie, mais comme bien d'autres personnes, de laisser peut-être le témoignage de ce que j'aurais pu être.
Alors, ce que vous auriez pu être, écrivain ou historien?
Ben, peut-être les deux, mais peut-être plus écrivain qu'historien. En tout cas, ce que j'écris aujourd'hui est moins de l'histoire et davantage du roman. Donc, effectivement, je crois que j'ai envie de me tourner vers l'écriture. Oui.
Alors ceci sera une autre histoire, ça sera pour plus tard, mais aujourd'hui, donc, nous revenons vers le quintet de Montauban, donc ces cinq personnages, ces rencontres de cinq personnes. Alors, pourquoi Montauban?
Parce que c'est le point nodal. J'ai utilisé le mot tout à l'heure, parce que c'est là qu'ils vont se retrouver. C'est là qu'ils vont se retrouver, et en 42, qu'ils vont se croiser. Alors, c'est un peu l'unité traditionnelle des pièces du XVIIe siècle, mais on peut presque trouver ça, c'est-à-dire l'unité de lieu, l'unité d'action, l'unité de temps. Et j'arrive à reconstituer ça. Alors, pourquoi Montauban? Peut-être qu'il faut qu'on explique qui sont les personnages pour comprendre pourquoi
Montauban.
Alors,
partons des personnages. Alors, moi, je commencerais bien par la Joconde. On se demande pourquoi la Joconde est un des personnages de ce roman.
Eh bien, parce que la Joconde a passé 2 ans et demi à Montauban pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Elle s'est beaucoup promenée hein, pendant la
Alors,
pendant,
elle s'est
pendant,
énormément
pendant,
promenée.
Pendant la guerre.
Alors, il faut rappeler quand même que les conservateurs des musées nationaux ont accompli un travail absolument extraordinaire et que ce travail extraordinaire, ils l'ont commencé avant la Première Guerre mondiale. La Joconde a été à l'abri à Toulouse pendant la Première Guerre mondiale. Après avoir été volée en 1911, elle a été récupérée en Italie fin 1913.
Dans des conditions rocambolesques.
Et elle a été raccrochée au Louvre en 1914. Et puis, très vite, elle a dû être mise à l'abri. Et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la crise de Munich, on la sort, ainsi que les principales œuvres des musées nationaux, on la sort déjà on la décroche de ses 6 mètres du Louvre, et elle part à Chambord. Alors Chambord, la Joconde l'a souvent visitée. Parce que c'est la place de repli, c'est la place de tri des œuvres pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est la place où elles reviennent avant d'être acheminées à Paris et d'être accrochées à leur mur habituel. C'est vraiment le lieu central. Mais la Joconde, à partir de... Elle part donc en 1938. Trois jours après les accords de Munich, elle revient au Louvre. Elle repart en 1939, au moment de la déclaration, enfin, du déclenchement de la guerre avec l'Allemagne. Là aussi, elle repart dans son château préféré. Et puis ensuite, elle va dans une première abbaye, dans un premier château, un autre château. Elle va ensuite dans une abbaye dans le sud-ouest. Et cette abbaye dans le sud-ouest, il s'avère que en septembre-octobre 40, on commence à s'apercevoir qu'elle est un peu humide et que ce n'est pas exceptionnel pour conserver des œuvres comme la Joconde.
Ce n'est pas l'idéal.
Et de ce niveau-là. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de déplacer ses œuvres au musée Ingres de Montauban, qui est un lieu formidable. J'invite tous les auditeurs à le visiter s'ils ne le connaissent pas. C'est maintenant le musée Ingres-Bourdelle. Très, très beau musée. En tout cas, elle va là-bas en compagnie de 3 000 à 4 000 œuvres du Louvre et de collections privées également qui ont été protégées par les musées nationaux.
Et donc, elle se retrouve là, prête à être confrontée avec les autres personnages du quintet. Et donc, commençons par la petite fille.
Alors, oui, alors, on peut commencer par la petite fille, mais on peut commencer aussi par le gardien de la Joconde.
Alors, pourquoi pas ?
Parce que,
allons-y.
Pour faire le lien...
Qui est le gardien de la Joconde ?
Alors, la Joconde, elle a été accompagnée depuis le Louvre par Lucie Mazori, qui est une conservatrice qui a fait l'école des Chartes, où elle a rencontré son mari, André Chanson. Et André Chanson, il est né avec le siècle, en 1900. Il est également un ancien de l'école des Chartes. Il a écrit ses premiers romans extrêmement jeunes. Il a été recruté par un président du conseil qui avait lu son premier roman en lui disant « Votre roman est super, venez dans mon cabinet ministériel ». Je trouve ça assez...
Les discours seront de bonne qualité.
De bonne qualité. C'est quelqu'un qui est très lucide politiquement, qui suit la guerre d'Espagne d'extrêmement près, qui écrit un livre en 1934 sur ce qui se passe en Europe, à la fois en Union soviétique et en Allemagne, qui est vraiment très intelligent, qui est très précoce. Il voit avant le retour d'Urs d'André Gide ce qui est en train de se passer en Union soviétique, alors que c'est un homme de gauche engagé et qui est également un homme de terroir. C'est un Sévenol protestant et qui est très, très attaché aux racines. Et dans les années 30, c'est un pacifiste convaincu. Pour autant, il se engage en 39 parce qu'il est,
il
comprend
patriote.
Ce qui se passe. Il est patriote et il comprend ce qui se passe. Et il considère qu'il doit aller se battre. Et il écrit un très beau livre, d'ailleurs, sur cet engagement qui paraît tout début 40. Et il est désespéré. C'est ma vision. En tout cas d'écrivain. Je n'ai pas forcément de témoignage là-dessus. Hein. Je pense qu'il est désespéré par le tour que prennent les événements en 40, hein, devant la péripétie à la fois du gouvernement et du commandement suprême de l'armée française. Et il va rejoindre sa femme et accompagner la Joconde à partir de là, être très proche de la Joconde pendant les années qui suivent.
Et alors, les autres personnages ?
Les autres personnages, alors la petite fille, elle est venue en France, elle avait 6 mois, donc elle a vraiment une culture quasi exclusivement française. Elle était à l'école comme toutes les petites filles. Et puis elle se retrouve toute seule avec sa maman au début de la guerre à Paris. Et elle décide, un peu avant les grandes rafles qui ont lieu le Veldiv, c'est juillet 42, de quitter la région parisienne et d'aller en zone libre.
Parce que la petite fille est d'une famille juive.
Et la petite fille est juive, absolument, même si elle n'a pas beaucoup de culture juive et qu'elle n'a pas été éduquée, elle ne connaît pas la religion. Mais effectivement...
Mais les nazis, ce n'est pas la question.
Ce n'est pas le sujet, effectivement. Et donc, avec sa mère, elles franchissent la ligne de démarcation à l'aide d'un passeur qui, en fait, les livre à la police de Vichy. Et donc, une fois franchie cette ligne de démarcation, elle est embarquée pour le camp de Rivesaltes, où elle va y passer un certain temps. Je pense d'ailleurs que la description de la vie quotidienne au camp de Rivesaltes est une des rares descriptions de quelqu'un qui l'a vécu, puisque j'ai utilisé le matériau laissé par ma mère, mais écrit 70 ans après. Mais dans sa mémoire, c'est quelque chose de très, très... C'était à l'époque, il y a une douzaine d'années quand elle a écrit ça, c'était encore très concret. Et donc, elle s'échappe de Rivesaltes. Alors, il faut dire que le camp de Rivesaltes, qui a accueilli plusieurs générations de personnes, avait dans cet été 42 la présence d'un envoyé du préfet qui a fait le maximum pour faire sortir des gens légalement. Parce qu'il y avait un certain nombre de cas qui permettaient d'être libérés et que le secrétaire général de la police, on en parlera dans un instant, René Bousquet, a fait limiter au début 42 le nombre de cas qui permettaient de sortir librement du camp par la voie légale. Et à partir de là, il y a eu des évasions et la petite fille s'est évadée avec sa mère et son père qui les avait retrouvés dans l'intervalle à l'aide d'une infirmière suisse de la Croix-Rouge. Et donc commence un périple de cette petite fille dans le sud-ouest qui va la mener dans un village du Quercy, Montpezat de Quercy, un village magnifique d'ailleurs aujourd'hui que je vous invite à visiter. Très très belle bastide et puis une basilique magnifique. Et elle va rester un certain temps dans ce village jusqu'à ce que les Allemands y débarquent. Et là, sa mère...
Panique.
Un peu panique, parce que sa mère est incitée par les personnes qui les abritent à partir immédiatement. Son père était déjà dans les maquis. Et la petite fille se retrouve toute seule avec la maîtresse qui va demander à la mairie que faire de cette petite fille. Et fort heureusement, il y a un ancien colonel de la première guerre de 14 qui est originaire de Lorraine, qui va la prendre en charge dans un premier temps, et puis la confier à une jeune femme dont le mari est prisonnier de guerre. Et cette jeune femme va la cacher, va avoir peur et va demander à des amis dont elle dispose à Montauban si elles peuvent trouver une solution. Et c'est là que ses amis vont contacter l'évêque de Montauban, Pierre-Marie Théas, et que Pierre-Marie Théas va venir la chercher.
En fait, ce que vous nous racontez à travers de l'histoire de cette petite fille, c'est une incroyable chaîne de solidarité, de secours, de soutien qui va se mettre en œuvre. Et c'est peut-être pour ça qu'en France, on a réussi à sauver un certain nombre de juifs. C'est qu'il y a eu cette volonté de solidarité et de soutien de la part de la population à tous les niveaux.
Alors, Sophie Ruberti, c'est vrai qu'il y a eu des élans de solidarité, des engagements de personnes qui ont pris des risques pour en sauver d'autres. Ça n'a pas été général, évidemment,
et
malheureusement,
sait, oui,
et malheureusement, la plus grande partie des gens sont restés à l'écart de ces sujets-là. Leur préoccupation essentielle, c'était de manger. Hein.
C'était de survivre.
De survivre et de manger. Ouais. Pendant ces années-là, on a eu faim. Et donc, après l'été 40, on a commencé à avoir faim. À partir de l'hiver 40-41, la faim a été le principal sujet de préoccupation.
Moins à la campagne. À la campagne, on avait...
On arrivait à peu près. Ouais. Mais dès qu'on était en ville, le sujet était difficile. Ouais. Et effectivement, il y a cette chaîne de solidarité qui est formidable, qui l'amène jusqu'à cet évêque. Cet évêque qui a été un personnage majeur.
Donc, Monseigneur Théas, passons à
Pierre-Marie Théas. Personnage majeur, pour moi, de la résistance catholique française. Et au-delà. Pierre-Marie Théas, c'est quelqu'un qui est nommé évêque en juillet 40, au moment de la débâcle, au moment où Pétain prend le pouvoir à Vichy. Donc c'est assez formidable, c'est un ancien combattant de la guerre de 14, donc, qui a eu une carrière essentiellement d'éducateur, carrière ecclésiastique d'éducateur, et donc travail, famille, patrie, ça lui convient assez bien
comme à beaucoup.
Et à tel point que lorsque Pétain fait son premier voyage officiel après être nommé à Vichy, il va à Toulouse le 5 novembre 1940 et à Montauban le 6 novembre 1940. Et Pierre-Marie Théas parle de Pétain comme d'un sauveur choisi par Dieu pour sauver la France.
Mais il ne s'est pas arrêté là.
Il ne s'est pas arrêté là et en août 1942, au moment des rafles, il y a eu, on l'a dit tout à l'heure, les rafles du Veldiv mi-juillet. Et puis, en août, commence à avoir les rafles dans le sud-ouest et à Lyon. Et ce sont les rafles du sud-ouest qui vont déclencher les réactions. Les réactions, alors, de plusieurs hommes d'église importants, hein, Monseigneur Saliège, qui était l'évêque de Toulouse.
Oui, celui qu'on connaît.
Celui qu'on connaît bien, qui était à l'époque, d'ailleurs, gravement handicapé. Hein. Il avait un charisme incroyable, mais c'était... quelqu'un qui avait une capacité à se mouvoir qui était très limitée à ce moment-là. Sa prise de parole était presque inaudible. Et pour autant, il avait une puissance très, très forte. On peut citer aussi Bruno de Solages, qui était le directeur de l'Institut catholique de Toulouse, qui a eu une importance capitale dans les 10 ans qui ont précédé, dans la formation des prêtres de toute la région, qui va avoir une incidence sur le petit séminaire de Montauban. Donc, qui a aussi un rôle très très important, qui va même venir s'exprimer à Montauban pendant la guerre, devant en 41 en présence de Monseigneur Théas. Donc il y a un contexte d'une église qui met la valeur de l'homme en premier dans cette région-là et qui est très attentive à ce qui se passe et qui reste fidèle à ses principes fondamentaux. Et Monseigneur Théas, malgré l'admiration qu'il a pour Pétain, il écoute ce qui se passe. Et il va être aussi largement baigné par son environnement parce qu'on va lui communiquer toute la presse résistante. Alors, un petit peu discrètement, et c'est notamment une jeune femme absolument extraordinaire qui est la secrétaire, la responsable du secrétariat social de l'évêché, qui va être la cheville ouvrière de la résistance catholique autour de l'évêché, avant même que l'évêque n'en devienne une part importante.
Prenne sa place.
Oui, et donne toute sa puissance et son relais vis-à-vis de l'ensemble du diocèse. Donc oui, il y a un environnement très très important. Je crois que ce qu'il a d'abord guidé, c'est sa foi en l'homme, sa foi dans les valeurs et sa capacité vraiment à réfléchir dans l'absolu. Donc ça a été quelqu'un qui, après avoir écrit un courrier extrêmement fort, donc en fin août 1942, diffusé dans toutes les paroisses le 30 août 1942, à l'aide de la bicyclette de Rose-Marie Ginès, hein, qui est la jeune femme dont je parlais il y a un instant, qui va faire 230 km sur...
Et elle va distribuer la lettre de l'évêque dans toutes les paroisses.
Exactement.
À vélo, parce que de toute façon, elle n'a pas d'autres moyens de transport.
Exactement. Vous imaginez les vélos de 1940
vélos
et les routes. Et les routes.
Et c'était pas assistance électrique. Hein.
C'était pas assistance électrique, absolument.
Et donc, elle
et donc l'évêque va avoir une parole très très puissante, mais derrière, il va passer aux actes concrets. Il va écrire à une trentaine de couvents pour leur demander de protéger des familles juives, notamment, sans chercher à convertir les enfants, et en leur disant qu'il va leur mettre à disposition des tickets de rationnement. Donc, il pense à la logistique. C'est quelqu'un d'extrêmement concret. Il apprend un jour qu'il y a un train de déportation qui part de Toulouse pour rejoindre Drancy, qui va s'arrêter à Montauban pour refaire de l'eau. Il se précipite au petit séminaire, il mobilise tous les prêtres qu'il peut trouver, il se rend à la gare de Montauban-Ville-Bourbon, il s'étale le long du quai, il monte sur une chaise ou une table avec un mégaphone de l'époque et il commence, au moment où le train s'arrête, à dire... parents, nous savons où ce train mène les familles. Si vous voulez sauver vos enfants, donnez-les-nous, nous ne les convertirons pas. Il répète ça deux fois et on entend du verre qui se brise, des cris, des hurlements, des pleurs d'enfants et un certain nombre de parents. Vous imaginez le déchirement, Sophie Huberti.
Ah, j'imagine très bien. Et c'est d'ailleurs un des moments les plus émouvants de ce livre. Imaginez Monseigneur Théas. Hurlant dans son mégaphone, donnez-nous vos enfants si vous ne voulez pas qu'ils subissent un funeste sort.
Et les jeunes prêtres récupèrent ces enfants-là. Les Allemands ne réagissent pas. Et ils seront sauvés. Donc, il y a quand même chez Monseigneur Théas un courage formidable. Ensuite, ça va s'exprimer vis-à-vis du STO. Ça va s'exprimer à la fin de la guerre. Au moment d'Oradour-sur-Glane, quelques jours avant, la division d'Asreich, enfin, elle est installée dans le département, hein, autour de Montauban, depuis fin décembre 1943. Elle va commettre des exactions, notamment dans le village de Montpezat-Quercy, dont on parlait tout à l'heure. Et Monseigneur Théas écrit à la commandante Tours pour protester contre les actes commis par les Allemands. Et chose absolument étonnante, les Allemands lui répondent. Mais il recommence. Il réitère son écrit, à tel point qu'il va finir par être arrêté par les Allemands en compagnie de le 9 juin 1944, en compagnie de beaucoup de notables du Sud-Ouest, des élus, des journalistes célèbres, des préfets, et il va se retrouver emprisonné au camp de Royallieu à Compiègne, où il va passer 3 mois. Et en sortant, premier acte, il est libéré, il a la chance de ne pas partir en Allemagne, il est libéré avec l'avancée des troupes américaines, je crois le 24 août 1944, il se précipite à Paris, première chose qu'il fait, c'est qu'il va voir De Gaulle en disant, mon général, rencontrez Monseigneur Suard, donc le cardinal archevêque de Paris, dont De Gaulle ne voulait absolument plus entendre parler, parce qu'il avait reçu Pétain 3 mois avant, avec tout le faste qu'on connaît. Et il va obtenir qu'il se parle. De Gaulle va lui demander, quelques jours après, de partir au Vatican, demander au pape de reconnaître le gouvernement provisoire de la République française. Le pape va le faire. Il va également obtenir du pape qu'il change le nonce apostolique. De Gaulle ne voulait plus conserver un seul représentant diplomatique qui avait été présent auprès de Vichy. C'était son point. Et donc, il va obtenir le changement de nonce, et le nouveau nonce qui va être donc nommé fin 44 va être le futur Jean XXIII, qui aura un rôle dans sa vie, un rôle très important, à un moment où Monseigneur Théas sera fâché avec une grande partie de l'Église de France. Mais ça vient 15 ans plus tard.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause et on retrouvera les autres protagonistes de cette belle histoire après cette pause.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libres. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie avec Sophie Rouberti dans l'émission Culture et Éducation. Je reçois Charles Berkowitz à propos de son livre Le Quintet de Montauban. Alors dans ce quintet, nous avons parlé de Monseigneur Théas, nous avons parlé de la Joconde, nous avons parlé de cette petite fille qui a été sauvée grâce à une chaîne de solidarité incroyable. Et alors, les deux autres ?
Alors, les deux autres, on avait parlé tout à l'heure rapidement du conservateur du Louvre, André Chanson. Et André Chanson, pour terminer avec lui, il va s'installer donc à Montauban dans un endroit assez extraordinaire qu'il a nommé la chambre de Goethe, parce qu'en arrivant dans cet appartement, il va découvrir des tableaux du père du Dominique Ingres que nous connaissons, qui était lui-même un grand peintre, et un lieu assez extraordinaire. Et il va écrire un livre, un des plus beaux livres qu'on peut lire sur la vie quotidienne pendant la guerre, qui s'appelle « Le Puits des Miracles ». Chers auditeurs, si vous avez un livre à lire en dehors du quintet de Montauban, c'est « Le Puits des Miracles ». André Chanson est un peu oublié aujourd'hui, mais ça a été quelqu'un de passionnant. Et ce livre raconte la vie à la manière, j'allais dire, de Kafka. C'est intemporel. On ne sait pas que ça se passe à Montauban, mais quand on connaît Montauban et qu'on sait ce qui s'est passé pendant la guerre, on reconnaît. C'est un livre qu'il a écrit en 41, qui a une puissance et une écriture vraiment, je trouve, qui a conservé toute sa modernité. Et il y a une très belle exposition d'ailleurs qui se tient en ce moment à Nîmes sur André Chanson. Et André Chanson va devenir un grand résistant. Il va cofonder la Brigade Alsace-Lorraine avec André Malraux. Et il va poursuivre la lutte jusqu'en Allemagne avec cette brigade fin 44, début 45. Et après la guerre, il va être nommé directeur du Petit Palais, puis directeur des Archives nationales. Il va devenir académicien français. Il va donc avoir une reconnaissance et on va utiliser ses compétences. Et il va continuer à écrire et donc à publier de très beaux livres. Voilà pour André Chanson. Le dernier personnage, alors... qui est un peu plus surprenant dans cette histoire, c'est René Bousquet. René Bousquet...
Enfin, il a quand même sa place.
Ah, il a largement. Sa place, pleinement sa place dans cette histoire. René Bousquet est né à Montauban. Donc, René Bousquet, je rappelle, c'est celui qui a été nommé chef de la police au retour de Pierre Laval comme chef de gouvernement en avril 42. Et il va rester chef de la police, secrétaire général de la police, pour utiliser le terme précis, jusqu'en décembre 1943. Et René Bousquet est très jeune. C'est quelqu'un qui est né en 1909. Il démarre des études de droit à Toulouse, mais son père, qui a un gros réseau, son père est notaire à Montauban. Et son père est proche des grandes familles de notables du Sud-Ouest. Et il fait en sorte qu'il soit nommé à 20 ans chef de cabinet du préfet du Tarn-et-Garonne. Donc à 20 ans, il fait des allers-retours entre Montauban et Toulouse en permanence, entre ses études et son rôle. Et puis, sa carrière va décoller avec un événement météorologique. En 1930, il va y avoir, à la fin de l'hiver 1930, il va y avoir de terribles inondations à Montauban et dans tout le Tarn-et-Garonne. Il va y avoir à peu près 250 morts, des milliers d'habitations détruites,
oui, des
milliers d'animaux perdus, noyés. Et avec une de ses relations, ils vont passer toute la nuit à sauver des dizaines de personnes à partir d'une barque d'Adolphe Pou, donc, qui est un peu plus âgé que lui, qui a 26 ans. Et puis au petit matin, Adolphe Pou se noie, le seul survivant et qui va d'une certaine manière trouver les lauriers à ce sauvetage, c'est René Bousquet qui reçoit la Légion d'honneur. Et André Tardieu, en visite sur Zone, va le nommer à son ministère, enfin André Tardieu est le président du conseil, en charge de la reconstruction, donc 21 ans, en charge de la reconstruction des zones inondées. Et à partir de là, il va commencer une carrière dans les cabinets ministériels, qui va même le mener à être responsable des fiches sous le Front populaire, parce qu'il a plutôt une vision de quelqu'un de loyal vis-à-vis du gouvernement. Et il devient également, il entame une carrière préfectorale en parallèle. Et au début de la guerre, il est sous-préfet dans la Marne.
Loin de Montauban. Et pourtant,
il va s'en rapprocher, puisqu'il y a ses parents qui y sont toujours. Donc, il va évidemment voir ses parents. Son père n'est pas du tout... Alors, on peut penser que René Bousquet, au début de la guerre, devienne un Jean Moulin de l'Est, un Jean Moulin de la Marne. Pourquoi ? En juillet 40, il se rend au siège de l'armée allemande, de la Wehrmacht, à Saint-Germain-en-Laye. Il va aller voir pourquoi ? Parce que un de ses anciens ministres, dont il était chef de cabinet, qui est le maire de Reims, donc dans son département, qui est député, hein, à l'époque on cumule facilement les mandats, et qui vient de voter pourtant les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, vient d'être arrêté par les Allemands parce qu'il est franc-maçon. Et René Bousquet va voir les Allemands en leur disant « Libérez-le, parce que sinon je vais mettre en grève tous les élus du département ». Il faut se rappeler qu'en 1940, les Allemands, c'est une armée en France. Il n'y a pas d'organisation administrative. Ils ont besoin de s'appuyer sur les structures de l'État français. Et donc, ils vont le libérer, à surprise générale. Et dans les semaines, les mois qui suivent, depuis sa sous-préfecture, puis sa préfecture, parce qu'il est nommé préfet avant la fin de l'année 40, sur place, il va cacher des communistes, des soldats prisonniers qui se sont évadés. Il va accomplir des actes, finalement, de résistance à plusieurs reprises. Et donc, on peut penser qu'il devienne vraiment quelqu'un qui soit du côté de la résistance. Et puis, patatras, au printemps 42, il accepte de devenir secrétaire général de la police de Vichy. Et c'est un des éléments qui m'a intéressé, c'est de comprendre comment cet homme-là, par quel motif, il a fait ce choix, finalement, de clairement travailler aux côtés de Pierre Laval et de diriger la police à un moment où elle a un rôle absolument clé pour tenir le pays aux côtés des Allemands.
Et donc, tous ces personnages vont se retrouver. Et je vous propose qu'on continue d'en parler après la chronique de littérature jeunesse de Valérie Daubigny. Bonjour Valérie.
Oui, bonjour Sophie.
Alors, quelle pépite avez-vous dénichée pour nos jeunes lecteurs aujourd'hui ?
Alors, chère Sophie, j'ai choisi pour vous un très gros coup de cœur, puisque pour vous, je ne prends que le meilleur du meilleur, vous savez bien.
Ah, merci Valérie. Merci pour nos auditeurs et les enfants qui bénéficieront de vos choix. D'ailleurs, je rappelle, si vous avez des livres à choisir, n'hésitez pas à aller sur le site 123 Loisirs, qui choisit là aussi le meilleur de ce qui existe en matière de livres pour les enfants.
Alors, il s'agit d'un coup de cœur 123 Loisirs, effectivement. Takashi et Midori, les amoureux de Nagasaki, sous la plume d'Isabelle Stock, aux éditions Emmanuel Jeunesse, dans une collection qui s'appelle « Toi et moi vers Dieu ». Donc c'est une biographie romancée qui concentre l'attention sur deux personnes. Au Japon, on est juste avant la Deuxième Guerre mondiale, dans un contexte du XXe siècle au Japon, un contexte de guerre. Et la jeune Midori, catholique, grandit entre son père et sa mère à l'ombre de la grande cathédrale de Nagasaki. Et Takashi Nagai est un jeune étudiant en médecine qui est intrigué par cette religion qui vient de l'étranger.
Assez mal vu au Japon.
Assez mal vu, assez mal vu. Mais il est intrigué et il demande l'hospitalité en tant qu'étudiant dans cette famille pour se rapprocher de la communauté catholique. Il ne connaît pas encore Midori, la charmante jeune fille de la maison, dont il va tomber éperdument amoureux. Petit à petit, il va se convertir, aller jusqu'au baptême. Midori, elle, est très très fine. C'est vraiment toute l'éducation japonaise. Et Isabelle Stock le montre extrêmement bien. Il y a des descriptions très subtiles, très évocatrices. Le moment du thé, les couleurs, les sons. On entre vraiment dans ce contexte. Et puis, on entre dans le sentiment amoureux qui se développe entre ces deux personnes, si étrangères au départ, et toute la fusion de deux cœurs et surtout de deux âmes. Et lorsque la bombe atomique va tomber sur Nagasaki, précisément dans le quartier catholique et sur cette magnifique cathédrale, eh bien, Takashi, qui n'est pas sur place à ce moment-là, mais qui est un peu plus loin, il sent que Midori, qu'il ne la reverra pas. C'est extrêmement touchant. Je suis très admirative de tout le sérieux qu'il y a derrière ce travail de biographie d'Isabelle Stock, mais elle nous montre, en dépit de ce contexte assez dur, de la souffrance, ils vont perdre des enfants, il va y avoir de l'incompréhension entre eux aussi, parce que lui, tout feu, tout flamme, il se donne à fond, d'abord dans son métier de radiologue, et puis dans l'aide aux plus pauvres, il est finalement rarement là, et elle le soutient, et elle tient son chapelet. Et lorsqu'il ira regarder les cendres après la bombe atomique, il ne retrouvera pas grand-chose, mais il retrouvera près de la dépouille, près des cendres de Midori, il retrouvera le chapelet. Donc beaucoup de foi, et puis en dépit de ce contexte dur, beaucoup de joie, et de la paix, et de l'espérance, puisqu'on le sait, Takashi Nagai, après la mort de Midori, après le bombardement, est resté toujours disponible en dépit de sa grande fragilité physique, pour recevoir des personnalités du monde entier qui venaient chercher auprès de lui de l'espérance et de la résilience. Ils en sont vraiment tous les deux les témoins. Et d'ailleurs, ce couple, Takashi et Midori Nagai, est en procès de béatification actuellement, depuis 2021. Et je ne doute pas que ce livre, qui est excellent, fasse date et fasse progresser la cause. En tout cas, nous le proposons pour les jeunes à partir de 15 ans. Il n'est peut-être pas la peine de le donner plus tôt, même si, bien sûr, il peut être lu plus tôt, il n'y a pas de difficulté.
Mais enfin,
il y a
le contexte est quand même un peu particulier, un peu douloureux, donc on peut attendre, effectivement.
Exactement. Et puis, sur le développement du sentiment amoureux, le choix, le mariage, etc., bien, autant que ça vienne toucher des jeunes qui s'approchent de ces grands choix eux-mêmes. Donc voilà, c'est ce que j'ai lu de meilleur dernièrement. Je suis très, très admirative. Takashi et Midori, les amoureux de Nagasaki, il est paru en mai. Collection Toi et moi vers Dieu chez Emmanuel Jeunesse, 386 pages, 19,90 €. C'est un gros coup de cœur. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, Sophie et nos auditeurs, je vous avais présenté une bande dessinée sur Nagasaki et
oui,
le couple.
Oui, je me souviens très bien, oui.
Il y a beaucoup de correspondances entre ces deux travaux. Et vraiment, on ne peut pas douter que tout cela est tout à fait inspiré.
Eh bien, écoutez, bravo pour ce choix inspirant. Merci beaucoup, Valérie. Et puis, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle chronique. Au revoir,
merci.
Valérie.
Au revoir.
Chers auditeurs, nous retrouvons Charles Berkowitz dans Culture et Éducation sur Radio Courtoisie pour son livre Le Quintet de Montauban. Alors, nous avons vu tous ces personnages. Alors, quel est le lien entre eux tous ?
Ben, Montauban, évidemment, tout se passe à Montauban. Ils vont s'y croiser. Montauban est une ville formidable par son histoire. Hein. C'est une des dernières citadelles protestante qui a été prise par Louis XIII et Richelieu. Et après quoi, il va y avoir beaucoup d'installations de congrégations. Donc c'est une ville dans laquelle la place de la religion est extrêmement importante. Il y a une dizaine de couvents à Montauban au début de la guerre. Donc on a les foi qui s'entrecroisent, qui se mêlent, et on va voir d'une certaine manière un œcuménisme de résistance qui est très intéressant et qui est assez rare, qui est propre à probablement au sud-ouest et encore plus à Montauban qu'à cette culture tout à fait particulière. Et à Montauban, il y a des couvents, il y a une congrégation qui joue un rôle central dans ce livre, j'allais dire dans ce film, parce qu'on pourrait presque le voir sous cet angle, qui est la congrégation de la Sainte Famille, où il y a eu des actes de résistance multiples, assez formidables. Et les sœurs vont protéger de nombreux enfants, de nombreuses familles, et vont témoigner de résilience magnifique. Donc on a cette action qui est très très belle. On a aussi à Montauban la place de l'art, qui est assez unique à ce moment-là.
C'est vrai que vous avez parlé d'Ingres, donc il y a la Joconde.
Mais il faut connaître, c'est plus qu'une anecdote, ce fait assez incroyable, c'est qu'en juin 42, il y a une exposition sur l'art espagnol qui est inaugurée à Montauban en présence du ministre de l'Éducation de Vichy, de l'ambassadeur d'Espagne, d'un certain nombre de notables. Et pourquoi une exposition sur l'art espagnol?
Je me suis posé la question.
Au milieu de la guerre, à Montauban. Exposition d'ailleurs qui ne peut même pas se tenir au musée Ingres, qui est saturée des caisses du Louvre, donc qui se tient dans la chambre de commerce de l'époque. Et c'est que tout simplement, Franco avait demandé à Pétain la restitution d'un symbole très important de l'histoire artistique espagnole, qui est une statuette de 60 cm à peu près, qui est magnifique, qui s'appelle la Dame d'Elche. Et Pétain avait voulu satisfaire Franco, dont il avait été proche, hein, ça avait été l'ambassadeur de France auprès de Franco entre 36 et 39, et puis il savait gré à Franco de ne pas avoir envahi la France, contrairement à Mussolini, à l'été 40, quoi. Et donc, il a dit, on va lui restituer, même si elle avait été acquise tout à fait légalement. Et pour la restituer, donc, il demande aux responsables des monuments nationaux et des œuvres de le faire. Les conservateurs, et Jacques Jaujard, qui est le patron des conservateurs des musées nationaux, dit, Monsieur le Maréchal, c'est pas possible en France, en droit français, on n'a pas le droit d'aliéner une œuvre qui appartient à l'État. En revanche, on a le droit de l'échanger. Et donc les conservateurs français vont échanger la Dame d'Elche contre des Goya, des Murillo, des Urbaran, donc des œuvres de grands peintres espagnols, qui, avec quelques œuvres venant du Louvre, qui étaient donc entreposées à Montauban, et ben vont donner l'occasion de cette formidable exposition qui a lieu en pleine guerre. Donc quelque chose d'assez incroyable et qui est un point aussi important de cet été 42 à Montauban et du croisement des personnages que l'auteur a pu imaginer.
Est-ce que cette place assez étonnante de Montauban, étant donné la taille de la ville, a déjà été mise en lumière par d'autres historiens? Parce qu'on a l'impression que finalement, il y a quelque chose d'assez central. Est-ce que c'était...
Bon, il y a un prisme forcément dans cette histoire.
J'imagine que
Il y a des livres qui parlent de Montauban de manière centrale.
Centrale, peut-être pas, peut-être que le terme est un petit peu fort, mais en tout cas, une certaine importance finalement.
Exactement. Alors, je crois qu'en plus, je suis tombé sous le charme de cette ville. J'ai déambulé en regardant les maisons une par une, avec notamment le soutien d'une guide extraordinaire qui m'a montré ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, presque maison par maison. Donc, on peut déambuler avec, il y a au moins un chapitre ou deux où on peut se promener dans la ville avec le livre ouvert, pour comprendre ce qui s'est passé. C'est presque quelque chose qui donne de l'intimité aux relations. Il y a notamment une rue qui s'appelle Faubourg du Moustier, où dans chaque maison, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire qu'on a à la fois le secrétariat social de l'évêché, le siège de la Gestapo, le siège de la milice, un peu plus loin, le petit séminaire. Enfin,
Il y a une concentration
extraordinaire. Un couvent au milieu qui a caché des personnalités célèbres. Donc, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses dans ce sud-ouest.
J'ai une précision d'un auditeur sur l'histoire. Il dit, en fait, votre invité dit que Pétain a pris le pouvoir. En fait, il n'a pas pris le pouvoir. Il a été appelé par une classe politique et démocratiquement confirmé par les deux assemblées réunies. Il fallait peut-être juste préciser ça, même si voilà, c'est pas l'essentiel de votre livre. Alors donc, on a dans le quintet de Montauban l'histoire de cette petite fille, et cette petite fille, elle est sauvée, puisqu'en fait c'est votre mère, donc elle a pu vivre sa vie d'enfant. Tout ce monde se croise. Qu'est-ce que vous en retenez de cette aventure qui est en fait éminemment personnelle? Et quand vous avez fait ce travail d'historien, comment est-ce que vous finalement replacez l'histoire de votre famille par rapport à l'histoire de France?
Alors, la question est très intéressante. C'est comment on place finalement son histoire singulière dans le concert des nations et dans le concert de la société. C'est un témoignage d'une vie parmi d'autres. Chaque vie a sa valeur. Et donc, chaque vie est constitutive d'une part de la nation.
L'histoire, ouais.
Elle témoigne, vous l'avez dit, Sophie Roberti, tout à l'heure, de cette chaîne de solidarité qui a eu lieu, puisque le nombre de concours d'assistance à personnes en danger a été très important. Des gens ont pris des risques pour...
en France particulièrement.
Pour les sauver. En France, aux Pays-Bas, il y a un certain nombre de pays où il y a eu quand même des engagements très forts. Mais dans cette région, en tout cas, ça a été vrai. Ça a été vrai quand c'était, entre guillemets, la France libre et quand elle était un peu moins libre. Mais effectivement, moi, ce que je retiens, c'est que il y a eu un amour de la France qui est resté très, très fort. Il y a certains hommes qui, alors comme toujours dans les périodes sombres, la plupart des gens n'agissent pas. Il y a ceux qui profitent de l'instant, revanchards ou qui veulent en profiter ou par conviction, il y en avait. Et puis il y a des gens qui restent extrêmement fidèles à leurs convictions, quel que soit le risque à payer. Et donc on a dans cette histoire l'ensemble de ces éléments-là. Avec quand même quelque chose qui est éminemment positif, c'est que tous assez vite se disent il doit y avoir un avenir. Alors il y en a qui voient cet avenir et la pérennité finalement même à la période la plus terrible grâce à l'art, qui est vraiment cette représentation qui finalement transcende la vie humaine, hein, qui va au-delà. Hein. C'est une question qu'on peut se poser, est-ce que on peut risquer la vie? Sa propre vie pour sauver des œuvres d'art.
C'est une question qui mérite d'être posée.
C'est une question qui mérite d'être posée. Elle n'est pas simple en termes de réponse, mais elle participe de cet élément, de cette pérennité de la vie, et de cette volonté de poursuivre quels que soient les événements. Et ça, c'est resté. Et l'amour de l'art, d'ailleurs, est quelque chose qui est resté dans ma famille, au travers de tous les événements, et l'amour du livre et des personnes, c'est quelque chose qui est demeuré extrêmement fort, effectivement, chez la petite Hélène quand elle est devenue grande.
Alors, après la guerre, donc, ces personnages, que sont-ils? Vous évoquez tous ces personnages, que sont-ils devenus? Alors là, on sait que la Joconde a retrouvé sa place. Puisqu'elle est allée aux États-Unis et au Japon.
Absolument.
Voilà. Donc elle a fait quelques petits voyages.
Mais elle a été aux États-Unis dans une cabine qui avait été réservée au nom de Mona Lisa.
Je ne connaissais pas cette anecdote, mais c'est amusant. Donc elle a un petit peu voyagé maintenant. Je pense que cette dame respectable ne quittera plus.
Elle est âgée. Hein.
Elle ne quittera plus ces cimaises du Louvre. C'est pas des cimaises, mais ne quittera plus le Louvre. Alors les autres personnages.
Eh bien, donc André Chanson, après la guerre, il est devenu directeur du Petit Palais. Et je crois qu'il a été fortement marqué par Montauban par sa rencontre avec Monseigneur Théas. Il a organisé trois expositions tout à fait remarquables au Petit Palais. Une sur les œuvres du Louvre en voyage. Bon, il était au premier chef,
il connaissait
le sujet, et puis le Louvre n'avait pas encore ouvert à ce moment-là. Une seconde sur la Vierge et l'art. Lui, le protestant, quoi. Et je pense que ça, c'est ma conviction, je n'ai rien détaillé sur le sujet, c'est lié à sa rencontre avec Monseigneur Théas.
Il s'est passé quelque chose.
Et puis la dernière sur Bourdel, le grand sculpteur montalbanais aussi, qui n'avait pas encore autant de musées structurés qu'aujourd'hui. une grande exposition au Petit Palais sur Bourdelle. Donc Montauban l'a marqué. Puis par la suite, effectivement, je le disais rapidement tout à l'heure, quand Malraux a été nommé ministre de la Culture du général de Gaulle, il a été nommé directeur des Archives nationales, qu'il a radicalement transformé. René Bousquet, il a eu son procès assez tardivement. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, il part en Allemagne, dans une villa, à part du reste, j'allais dire, des collaborateurs de Vichy. Et il va rester là jusqu'à ce que les Américains l'arrêtent. Les Américains lui proposent de l'exfiltrer aux États-Unis. Il refuse et il prépare son procès. Il revient en France. Il va être l'un des derniers à accompagner Laval la veille de sa mort. Il va comparaître libre, donc devant la haute cour, très tardivement. Et il va être condamné au minimum. Du coup, rapidement, il va retrouver une liberté complète. Il va essayer de devenir chef d'entreprise. Il va également revenir dans le sud-ouest, notamment accompagner la présidente de la Dépêche du Midi pendant un certain temps. Il va également se présenter en 58 aux élections législatives dans la Marne, où il avait commencé à créer son fameux terreau politique, mais qui ça n'a pas pris. Et puis, on va le rencontrer dans les années 80-90 avec la sortie du livre de Pierre Péan sur ses liens avec François Mitterrand. Et donc, c'est là qu'on va en entendre à nouveau parler et que lui ne va pas comprendre pourquoi cette histoire ressurgit.
Et oui, l'histoire ressurgit.
Jusqu'à ce qu'il soit exécuté par un dénommé Christian Didier. Et donc, le seul procès qu'on aura vis-à-vis de René Bousquet, c'est finalement le procès de Christian Didier. Le procès de Christian Didier, qui va être défendu, alors ça c'est quelque chose d'assez surprenant, par un avocat commis d'office, un jeune avocat commis d'office, qui s'appelle Arnaud Montebourg.
C'est amusant.
L'ensemble des personnages.
Voilà, l'ensemble des personnages. Alors, donc, ce livre, Le Quintet de Montauban, est sorti récemment. Où peut-on vous rencontrer si on souhaite dédicacer votre livre?
Alors, j'essaye d'organiser des séances de dédicaces régulièrement. On peut le faire en librairie. Le prochain échange est un peu atypique. Je l'organise sous forme d'un dîner pizza littéraire. Ça se passe le jeudi 9 juillet à 19h30 à Paris, dans le 20e arrondissement, au Cappuccino, 33 rue de Tlemcen.
Voilà, l'occasion de parler avec vous du quintet de Montauban. Merci beaucoup, Charles Berkowitz. Passons maintenant à nos coups de cœur. Alors, Charles Berkowitz, avez-vous choisi un coup de cœur pour nos auditeurs?
Oui, je vais juste parler une minute de Gaulle, la bataille. Le film vient de sortir, enfin il va sortir en deux épisodes, là c'est le premier, donc entre les années 40 et 42. Alors, on entre dans ce film de manière un tout petit peu gênée parce que les acteurs ne ressemblent pas tellement ni à De Gaulle, ni à Churchill, mais très très vite on est pris parce qu'ils sont remarquables. L'action est magnifiquement reconstituée, la bataille de Bir Hakeim est formidable et on a des personnages qu'on a un peu oubliés. Fernand Bonnier, qui a exécuté l'amiral Darlan, est presque le héros de cet épisode de 2h40 à l'égal de De Gaulle. Le temps passe extrêmement vite. 2h40, mais on ne voit pas le temps passer. C'est très bien fait, c'est très agréable à regarder. Et on parlait des spectacles pour tout public et pour enfants tout à l'heure. Je pense qu'on peut y aller avec des enfants de 6e, de 10-12 ans. On doit pouvoir y aller avec beaucoup de plaisir.
Avec beaucoup de plaisir pour découvrir une page de notre histoire de France. Alors, moi, je voulais vous parler de Philippe Drécourt. C'est un... ce monsieur est à la fois officier et poète, père de famille, et oui, c'est possible, photographe aussi, prenant souvent sa famille pour modèle. Et son dernier livre de poèmes est consacré aux femmes. Ce livre s'appelle « Âmes héroïques, hommage poétique à ces femmes inconnues qui portent la France ». C'est un recueil pour honorer, comprendre et célébrer ces âmes héroïques et, dit-il, qui marchent, créent, enfantent, chérissent, vivent, chantent et renaissent. Merci à elles pour leur belle vocation. Je voulais vous lire un tout petit extrait. Il parle de la naissance. Entendre son premier cri, voir ses petites mains tremblantes toucher ses petits pieds douillets, quels les émerveillements de vie. Enfin, elle le reçoit dans ses bras, rien n'est plus somptueux. Il a faim, elle lui donne le sein. Allaiter, c'est continuer à l'aimer, à le chérir. Cette fusion des 9 mois n'est pas terminée, loin de là. Elle en est ravie et tout émue. Il pleure, elle le berce lentement, il s'endort. Elle le regarde calmement, Il respire. Elle lui murmure doucement des mots d'amour à mi-voix. Tu es unique à mes yeux, tu es notre petit roi, notre fierté, notre joie. Qu'y a-t-il de plus beau sur cette terre? Sans aucun doute, devenir mère. Voilà. Et il écrit sur l'enseignante, il écrit sur la bibliothécaire, il écrit sur les femmes, sur l'enseignante. Il dit, elle forge et elle soigne les esprits et les âmes, vaillantes et combattantes, elle veut les meilleurs et favorise l'essentiel pour ses petits élèves. Voilà, c'est que des petites pépites, des petits textes de ce poète qui s'appelle Philippe Drécourt, et il a publié ce livre aux éditions, j'ai oublié, aux éditions, vous le retrouverez de toute façon sur internet, ça s'appelle Âmes héroïques. Et puis je voulais vous parler aussi des rencontres, les estivales qu'organise Alte Academia pour les enseignants. C'est un temps de pause, de réflexion, de rencontre autour du thème éduquer au beau. Donc j'y serai, j'y participerai, j'interviendrai. Ça aura lieu à Montlijon les 8, 9 et 10 juillet. Donc pour les enseignants, vous pouvez vous renseigner auprès de Alte Academia et Saint-Joseph Éducation. Merci beaucoup Charles Berkowitz d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu nous présenter votre livre « Le quintet de Montauban ». Merci à notre réalisateur Benoît. Chers auditeurs, nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle émission « Culture et éducation ». À bientôt.
Merci beaucoup.
D'entendre Culture et Éducation dirigée par Sophie Ruberti, diffusée en direct sur Radio Courtoisie jeudi 18 juin 2026 de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.